Le petit Guillaume, texte de Sylvain Rivière, illustration de Mylène Henry. Quand j'étais petit, j'ai connu un personnage fascinant qui venait régulièrement chez nous, en Gaspésie. Il s'appelait Adelme Porlier. Petit et maigre, vêtu de loques, il était chaussé de godasses ouvertes, devant comme derrière. Cet homme ne possédait rien d'autre que ses rêves. Tout le long de sa route, Adelme composait des poèmes vantant les beautés de son grand pays. Parce qu'il ne savait pas écrire, il les répétait dans sa tête, les apprenait par cœur, les récitait en entrant dans les maisons en échange d'une bolée de soupe claire et d'une paillasse miteuse pour la nuit. Chacune de ses visites se déroulait de la même façon. Il frappait d'abord à la porte avec son bâton de pèlerin, entrait, puis faisait une génuflexion en retirant son vieux feutre cabossé qu'il pressait sur son cœur. « Voici pour vous réunis, mes bons amis, Adelme Ier, duc de Chicanqui, qui va vous réciter une poésie. » Il récitait des mots dont parfois on ne soupçonnait même pas la signification, des mots qui semblaient venir de loin et porter en leur tréfonds tout l'amour du monde. Des mots venus de l'autre bout de la terre, de la face cachée de la lune, du ventre des marées. Puis il se relevait, le regard luisant, il nous demandait « Pis, l'avez-vous aimé, mon nouveau poème ?»« Poème. » Je répétais ce mot nouveau dans ma tête pour ne plus jamais l'oublier. C'était notre quêteux attitré. Ma mère lui offrait des vêtements propres, l'invitait à faire sa toilette puis à manger avec nous. Moi, j'étais trop petit pour me souvenir des visites précédentes, mais ce soir-là, de mes 5 ans, j'allais vivre des moments inoubliables. C'était à Pointe-Bourg, en Gaspésie. L'hiver avait commencé la veille, et Adelme est débarquée au beau mi-temps de la maisonnée, entre chien et loup. Je buvais ses paroles, j'étais suspendu à ses lèvres, hypnotisé par cet être merveilleux. Après le repas, notre invité se berça quelques instants. Puis, il se pencha sur la boîte à bois pour se saisir de la première bûche qu'il examinait avec beaucoup d'attention, la retournant à maintes reprises dans ses mains d'écorce tendre. Fouillant ensuite dans sa poche, il finit par en sortir un couteau de poche, racorni et usé par le temps. Adelme était un gossu remarquable, un sculpteur. L'œuvre put enfin commencer à venir au monde. En respectant les nœuds du bois, il entreprit de lui insuffler la vie. D'une simple bûche de bois, Adelme le quêteux avait créé un être animé, ce qui le rendait encore bien plus précieux à mes yeux d'enfant curieux qui n'ayant jusqu'alors pas vu grand-chose. Dans l'écorce et les veinures du bois, il tailla un front ridé, puis, sans se soucier de nos petites têtes par-dessus ses épaules, il continua à décrocir la bûche jusqu'au nombril, chargé de donner la vie. Ensuite, le tour de la bouche, dans laquelle il prit bien soin de gosser une vraie dentition de cheval, à laquelle il manquait 2 dents. Ensuite, d'un coup de lame bien appuyé par son ongle noirci, il fit partir un copeau imposant, question de trouer le menton. Ce sorcier fit courir sa lame sur une paire d'épaules étroites et menues et, pour terminer cette étape, il prit bien soin de creuser le ventre du bonhomme. Sans jamais nous jeter un regard, il mit son travail à la serre, bien au chaud de lui, entre sa cuisse et sa chaise berceuse collée sur le poil, rouge de jalousie. Puis, avec des retailles de dégrossissage semées ici et là, il entreprit d'en faire des bras et des jambes qu'il perça aux extrémités. Une fois l'opération terminée, il se roula sur la fesse droite pour tirer de sa poche un vieux bout de corde à paquet dont il se servit pour relier les pieds aux jambes et les mains aux bras, avant de relier ceux-ci au tronc et avec des petits clous à tête rouillée qu'il tira d'une petite boîte de métal de la même poche de fesse. Adelme dévisagea le bonhomme dans toutes ses rondeurs, examinant bien si toutes les articulations étaient en mesure de danser la guigue au son du violon de grand-père. C'est alors qu'il me demanda, solennel, en me tendant un bouchon de bouteille qu'il avait tiré de sa poche, « Mathéo, va donc me crier un bouchon de Saint-Doux. » Alors, je fis fondre un peu de Saint-Doux dans une petite écuelle pour Adelme, qui s'en servit pour huiler les articulations de sa marionnette. Après bien des essais, après plusieurs ajustements, il put alors poser le dernier jalon qui la relierait à la vie. Se saisissant à nouveau de son couteau de poche, il creusa un trou minuscule dans le dos du personnage, s'empara d'une éclisse endormie au milieu du plancher, la gossa sur la longueur afin de la pointir, pour finalement transpercer le dos du petit bonhomme. Jugeant son œuvre achevée, il se pencha de nouveau sur la boîte à bois et, à force de fouiller dedans, il finit par y trouver un vieux bardeau de cèdre. Il le posa à plat sur son genou, y étala la paume de sa main comme pour y transmettre la vie et, tenant le danseur par le petit bâton planté dans son dos, il lui fit danser une gigue endiablée sur le bardeau, en tapant du pied et en miaulant des airs venus soudain d'un autre monde. « Danse, mon Guillaume, danse là ta gigue! C'est pas le temps de faire honte à mon couteau de poche qui a travaillé si fort pour faire du monde avec toi. Encore moins à la visite qui peut te voir danser toute la nuit jusqu'à temps que la sueur te coule du front. Danse, mon Guillaume, sinon les démons de l'enfer, de tous les cosmos décosmocosés, te jetteront au feu comme la bûche que t'as toujours été. » Puis, se retournant vers ma mère, il dit, « Vous avez un poêle qui tient bien. À cette heure, que mon Guillaume est trop fatigué pour continuer la veillée, m'en va le ranger. » Nous étions accrochés à sa parlure, habités par l'entrain du petit Guillaume sorti d'une bûche de bois et de l'imagination du conteur. Ce soir-là, nous nous étions endormis tard, après bien des rêves, les oreilles dans le crâne. Adèle s'était bien rendu compte que ses poèmes et son petit Guillaume m'intéressaient beaucoup plus que les autres. Pour cette raison, sans doute, il me dit, après cette première veillée improvisée, ce qui restera jamais gravé dans ma mémoire comme un héritage précieux. « Mathéo, quand je vais revenir, m'a t'en amené un petit Guillaume. » Il n'aurait pu me rendre plus heureux. Je m'étais couché riche ce soir-là, plus que de coutume, grâce à la complicité de maman, qui avait retardé l'heure du coucher pour que nous puissions profiter à plein de la visite et des propos du sage homme. Adèle me repartit 3 jours plus tard, après souper, sur le coup de 7 heures. C'était vers la fin décembre, je m'en souviens comme si c'était hier. Le ruisseau à pipette avait commencé à geler. Une semaine encore et nous pourrions partir sur la bottine, chaussée de nos cannes de lait carnation, comme des patins magiques. Il faisait soir comme chez le loup. Il faisait noir comme chez le loup. Une nuit sans lune. Adèle m'annonça, en se raclant la gorge, son départ immédiat. Ce qui n'eut pas l'air de surprendre mes parents, mais qui m'attrista. En le voyant refermer son baluchon sur le petit Guillaume, je me suis demandé pourquoi il me le promettait pour son prochain passage, alors qu'il aurait pu me le laisser maintenant, surtout que son baluchon n'en aurait été que moins lourd et mon cœur d'enfant que plus léger. Du haut de mes 5 ans, je remontai sur la pointe des pieds pour le voir partir. À travers le châssis double complètement givré, sa silhouette prenait soudainement une allure fantasmagorique. Je me souviens qu'aussi loin que mon regard pouvait le suivre, je ne le quittais pas des yeux, car j'avais de la peine pour lui. Je me disais, « Il va mourir, gelé dans les bois, peut-être de faim, alors qu'avec nous il ne manque de rien, ni de manger, ni de paillasse, ni d'amour. Pourquoi s'en va-t-il? » Ce soir-là, je m'étais dit tout bas, comme pour nourrir mon rêve, « Un jour, moi aussi j'étudierai pour devenir quêteux, et je m'en irai par les chemins réciter des poèmes et des contes et des histoires à qui bien voudra bien les entendre, en échange d'une soupe et d'un toit. » Une fois au village, Adelme, qui n'avait pas d'argent, fit du troc. C'est ainsi qu'il vendit le petit Guillaume à un père de famille qui l'apporterait à ses enfants. Et le lendemain, notre quêteux disparut de la région pour quelques mois encore. À chacune de ses nouvelles visites, j'allais à sa rencontre et profitant qu'il était occupé à se raser à la demande de ma mère, j'allais tâter son babuchon pour me rendre compte que le petit Guillaume ne s'y trouvait pas. Déçu, je ne lui en laissais pourtant rien voir, tellement démuni qu'il était, alors que moi, flanqué de mon père, de ma mère, de mes frères, de ma sœur Lélé, dans une maison chauffée à bloc et pleine d'amour, j'étais beaucoup plus riche que lui. Néanmoins, Adèle me se souvenait de sa promesse, et, avant de repartir, il me disait toujours, comme pour se faire pardonner, « Mathéo, je t'ai pas oublié. Dans la vie, on fait pas toujours tout ce qu'on veut, mais tu perds rien pour attendre. La prochaine fois, ce sera peut-être la bonne fois. Qui sait? »